À Marly, près de Valenciennes, monsieur le maire a déjà mis des cahiers de doléances à disposition. Une centaine de pages de réclamations et de propositions.
Faire participer les grosses fortunes au redressement de l'économie en France, augmenter les salaires et les retraites. L'avenir des jeunes est aussi d'actualité.
Les habitants qui ont participé espèrent bien être entendus.
Faut y croire, hein. Faut y croire. Aussi bien, on peut pas rien faire. On va pas tout casser, on va pas tout. Non, et il faut faire ça d'une façon démocratique, et puis on verra après.
Tout miser sur le grand débat national qui sera lancé mardi prochain, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes.
Le débat national qui s'ouvre doit nous permettre de parler vrai. Et je vous écrirai dans quelques jours pour vous en préciser les attentes.
Des thèmes de réflexion ont déjà été choisis par le gouvernement. Mais la Commission nationale du débat public n'exclut pas que d'autres questions émergent, plus sensibles, comme l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous.
Si des personnes veulent organiser une réunion pour réouvrir ce débat, elle est parfaitement libre de le faire.
Et on n'interdit aucun thème.
Ensuite, c'est au gouvernement de décider ce qu'il en fera. Ou pas.
Lancé comme une solution, le grand débat national se transforme-t-il en problème pour l'exécutif? La garde rapprochée du président rappelle à qui veut l'entendre les fondamentaux de l'état de droit.
Il ne s'agit pas que le débat conduise à détricoter tout ce qui a été voulu par les Français au moment de l'élection présidentielle.
Je ne crois pas qu'un like, c'est la même chose qu'un vote, voilà.
Alors, qui va trancher ce grand débat national? Peut-il vraiment devenir l'acte final des Gilets jaunes?
Une présentation assez caricaturale du débat. En fait, il existe en France une institution assez originale, la Commission nationale du débat public, qui est à peu près unique au monde, qui n'est pas sous tutelle politique et dont le métier, c'est d'organiser les débats. Et donc, ce grand débat, s'il est organisé par cette institution, d'abord, il n'utilisera pas qu'un seul outil, il en utilisera beaucoup, des outils locaux, des outils numériques, des réunions nationales, il utilisera le tirage au sort. Donc, je suis pas très inquiet sur l'ingénierie du débat. Là où je suis vraiment inquiet, c'est sur la possibilité de couper le cordon entre le pouvoir politique et l'organisation du débat.
Oui,
et c'est
parler.
Là où il y a une formidable ambiguïté. Oui. On a un pouvoir politique qui nous dit c'est nous qui allons organiser le débat, alors même que la Commission nationale du débat public devrait avoir la totale
autonomie.
Et on a surtout un pouvoir politique qui nous dit de toute façon, quoi que le débat dise, nous n'en tiendrons pas compte. Or, parmi les conditions absolument nécessaires à la crédibilité d'un débat, il y a le fait que celui qui l'organise, ou en tout cas celui qui le lance, pas celui qui l'organise, s'engage à prendre en compte ce qui va en sortir.
Donc là, c'est QFD. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec votre chiffre du jour,
4,
Anne.
Parce que le grand débat national doit s'articuler autour de 4 grands thèmes choisis par l'exécutif, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et l'organisation de l'État. Mais Chantal Jouanneau, qui va organiser ce débat, a dit qu'aucun thème ne devrait être interdit. Alors, qui va décider? Qui devrait décider, Jacques de Saint-Victor? Puisqu'on a l'impression qu'entre l'exécutif qui a lancé l'idée du débat et son organisatrice principale, il y a déjà un désaccord.
On a l'impression que normalement, un débat public, ça doit être tout le monde qui peut essayer de mettre sur la table les thèmes qu'il souhaite. C'est un peu ça l'idée. On vit une crise de la représentation, une crise très profonde. C'est presque un moment, charnière. On a eu pendant 2 siècles une démocratie représentative, ou en tout cas des systèmes représentatifs.
C'est une crise de régime, presque.
Non, c'est pas une crise de régime, c'est presque plus grave. C'est-à-dire, on le voit, c'est pas simplement français d'ailleurs, c'est vraiment dans toute l'Europe, dans des pays, certains sont allés beaucoup plus loin encore, comme l'Italie par exemple aujourd'hui, mais on voit très bien que ça se reproduit un peu partout. Il y a une crise profonde de la représentation, et pas seulement de la représentation politique, de toute forme de représentation. On l'a vu très bien avec les syndicats et on le voit aussi avec les médias. Voilà. Et
ça, c'est une défiance absolue.
C'est une défiance vis-à-vis de toute forme de représentation. Donc, le débat, il est là pour essayer justement de redonner ce qu'on appelle la parole au peuple. Le problème, c'est qu'évidemment, ces mécanismes pour redonner la parole au peuple, après, il faut essayer de trouver les moyens pour traduire, pour essayer. Alors là, je sais que c'est la grande difficulté, c'est d'essayer que ça ne parte pas dans tous les sens et en même temps que ça ne trahisse pas la parole que l'on a donnée au peuple.
Mais vous parliez de cordon de sécurité entre les organisateurs du débat, le débat lui-même, et le politique. Mais quand on voit les thèmes choisis, notamment l'immigration au départ devait faire partie des thèmes choisis, Emmanuel Macron avait même dit à la télé, il nous faut l'affronter, et deux jours plus tard, ou une semaine plus tard, hop, il avait disparu parce que c'était trop politiquement gênant. Alors, comment ça va s'organiser? C'est déjà commencer un peu mal les choses, non?
Non, je pense que c'est pour que le débat ait une vraie effectivité, on ne peut pas interdire aux gens d'évoquer les questions qu'ils souhaitent évoquer. Donc, je pense que la Commission nationale du débat public va autoriser la possibilité que chacun organise des réunions. Mais dans l'orbite du débat, du grand débat tel qu'il est en train de se concevoir, on va insister sur ces quatre thèmes. Et je crois à quelque chose de très important. Pour que ce débat intéresse vraiment les Français, pour qu'ils y croient, il faut qu'il ait un débouché, et qu'il ait un débouché politique. Et je pense que la solution qui me paraîtrait idéale, c'est qu'en fait, on arrive à l'issue de ce débat sur quatre questions, ou trois, quatre questions de référendum qu'on soumette à tous les Français. Et qu'on ait un débat suffisamment structuré pour qu'à la fin de ce débat, il y ait une convention nationale de citoyens tirés au sort qui absorbe la matière du débat, hiérarchise quatre questions qu'on soumet à tous les Français. Là, il y a une vraie effectivité du débat. On est dans une configuration de démocratie participative d'une part et de démocratie directe d'autre part qui me semble avoir
Alors,
du sens.
Avant de revenir sur les débouchés concrets, on prend un autre exemple.
Sylvine
Thomassin, l'ISF.
Sylvine Thomassin, parce que Bruno Le Maire a dit encore récemment, très récemment, ça ne sert pas à détricoter ce qui a déjà été fait. Et donc, il disait, en gros, même si les gens demandent le retour de la réhabilitation de l'ISF, on n'en tiendra pas compte. Est-ce que ça vous semble normal, puisqu'ils ont été élus avec un programme, ou est-ce que ça vous semble embêtant pour la suite du débat?
Je crois qu'il y a une vraie crise actuellement de la confiance dans la parole publique et dans les représentants. Si on veut s'en sortir, moi je suis complètement d'accord, il faut en effet que ça puisse être ouvert. Et comment ne pas entendre que depuis le début, ce mouvement est lié à des questions sociales?
Ce mouvement des Gilets jaunes.
Ce mouvement des Gilets jaunes est fondamentalement lié. Alors, il y aura toujours des tentatives de récupération. On l'a vu ces derniers temps avec le CESE. Sur des questions sociétales, pourquoi pas. Et tout doit pouvoir être abordé, en tout cas dit, déposé. Mais quand même, ce mouvement est lié à des questions sociales.
Fiscales.
Sociales. Les difficultés de fin de mois, les difficultés pour se déplacer, qui sont liées également au pouvoir d'achat, énormément les questions fiscales, la question du logement. Enfin, comment reprocher aux Gilets jaunes de ne plus croire dans la représentation publique, alors que depuis des décennies, c'est pas le gouvernement Macron qui est en cause, et c'est moi qui le dis. Je n'aurai jamais un esprit partisan avec l'intérêt de mes concitoyens bondinois, et éventuellement des Français, bien sûr, au plus haut sommet. Mais comment est-ce que l'on a pu... Enfin, le bel exemple, le plan Borloo. Le plan Borloo, que j'ai tellement...
Sur les banlieues.
Mais terrible, terrible. Cela a accouché
sur les
banlieues, sur les banlieues, le 22 mai, à l'Élysée, la colère que j'ai pu exprimer avec d'autres maires. Comment est-ce que ce travail, qui a été fait pendant 6-9 mois par Jean-Louis Borloo, en écoutant, en auditionnant, en allant voir des élus, des enseignants, des syndicalistes, les corps intermédiaires qui sont tellement bafoués par ce gouvernement, cela a accouché d'une souris le 22 mai à l'Élysée. Comment est-ce qu'on peut reprocher aux Gilets jaunes de ne plus croire en la démocratie représentative? Donc en effet, je pense qu'il faut ouvrir au maximum, il faut que tout puisse être abordé, mais il faut qu'il puisse y avoir un débouché sur une véritable négociation.
Comme l'a dit votre voisin, on va y revenir. Mais d'abord, un des dangers, la manipulation avec le numérique.
Oui, effectivement, la démocratie du clic et du like, puisque la consultation a commencé sur Internet, elle s'est déroulée sur le site du Conseil économique, social et environnemental, c'est entre le 15 décembre et le 4 janvier à minuit, avec un résultat quand même assez mitigé, parce qu'elle a attiré que 31 000 participants, à l'échelle de la France, ça reste assez peu. Ce site proposait aux internautes, avec ou sans gilet jaune, c'est ce qui est écrit, d'exprimer leurs revendications sur plusieurs sujets, sur la fiscalité, par exemple, sur l'écologie. Les résultats ont été publiés, on les connaît, on peut les rappeler, puisque en tête des revendications figurait l'abrogation du mariage pour tous, et puis un peu plus loin, l'abolition de la GPA, qui est par ailleurs déjà interdite en France, ou encore la réclamation d'un référendum d'initiative citoyenne sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Alors on sait désormais comment on est parvenu à de tels résultats, notamment grâce à une enquête du site Arrêt sur Image. En fait, les militants ont tout simplement et massivement investi les réseaux sociaux. Ils ont publié par exemple une notice explicative très bien faite pour faire expliquer comment on fait monter certaines revendications, avec même des numéros de téléphone pour se faire aider, hein, des sortes de hotline, des numéros dans lesquels figure le numéro de Virginie Thélène, ex-Frigide Bardot, ex-figure de la Manif pour tous, qui a répondu à une interview et qui assume parfaitement avoir appelé ses sympathisants à voter. On peut imaginer qu'il y a d'autres groupes de pression qui vont faire ce type de lobbying numérique. Le CESE a réagi, en tout cas, il explique que des collectifs ont porté leurs revendications, nous en avons conscience, on en tiendra compte, on ne peut pas savoir tellement ce que ça veut dire, ça veut en tenir compte, mais Jacques de Saint-Victor, est-ce que c'est très sérieux, un organisme qui conseille quand même le gouvernement, qui va prendre la température comme ça sur Internet avec assez peu de garde-fous, on le voit là.
Bah oui, non, le problème il est surtout de la démocratie numérique.
Vous c'est ce souvenez... que vous appelez le rousseauisme électronique.
Le rousseauisme électronique, mais oui, c'est très préoccupant. Vous vous souvenez, au début des années 2000, on a eu droit à un éloge de cette démocratie électronique, ça devait être un salon numérique, que ça allait remplacer le café, le nouvel espace public, etc.
La nouvelle agora.
Bon, j'abuse pas, parce que de toute façon, maintenant, c'est une évidence, on voit très bien ce que c'est. C'est plutôt des phénomènes qu'il faudrait comparer à des phénomènes de foule ou des phénomènes de meute. Masse, de meute. Il faut relire tous les travaux qui ont été faits sur masse et pouvoir. C'est quand même vraiment des préoccupations aujourd'hui qui sont au cœur, vraiment.
Vous pensez qu'on peut rien en tirer de bon de cette
manière? Je ne dis pas qu'on peut rien en tirer de bon, mais il faut véritablement, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, et notamment ce que j'ai vu en Italie, puisque c'est vraiment sur une plateforme électronique, la plateforme Rousseau, que d'ailleurs Di Maio vient de conseiller aux Gilets jaunes en France.
Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles.
Le chef du mouvement 5 étoiles et qui est ministre du Travail et qui vient de dire aux Gilets jaunes, mais on peut vous aider en vous fournissant notre plateforme Rousseau. Bah, cette plateforme Rousseau, elle est gérée par une entreprise privée, la Casaleggio Compagnie, elle est très partie. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont tout de même extrêmement bizarres. Moi, j'ai les plus grandes réserves sur cette démocratie électronique.
Loïc Blondiot.
Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas du tout succomber au mythe de la démocratie purement horizontale. Rappeler effectivement qu'en démocratie, les groupes d'intérêt se manifestent aussi dans la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on a, c'est un espace de conflit où chacun essaye d'influencer la décision.
Procéduraux.
Il y a des espaces beaucoup plus procéduralisés. Mais on peut faire de la procéduralisation avec le numérique. Il y a des plateformes aujourd'hui qui existent, qui permettent de limiter ce type de travers. Dire qu'ils n'arriveront jamais, c'est une erreur. Quand on regarde le fonctionnement de la
démocratie... Qu'ils n'arriveront jamais à limiter les travers, vous voulez dire.
Non, qu'ils n'arriveront jamais que ce type de dérive, que ce type d'instrumentalisation, que ce type de mobilisation qui parvienne d'un certain point de vue à occuper tout l'espace, ça arrivera. La démocratie directe en Californie, par exemple, voire même en Suisse, elle permet aux groupes d'intérêt de faire valoir leurs revendications. Mais il me semble que si on doit envisager un grand débat, ces outils numériques sont particulièrement utiles. Tout le monde ne se déplace pas pour aller dans les réunions échanger. Les plateformes permettent une certaine forme de délibération. Non, il y a des choses. Par exemple, la loi sur la République numérique de fin 2015 qui avait permis à 30 000 citoyens de contribuer à l'élaboration de la loi, c'est quelque chose qui fait du sens. Donc, agiter ce chiffon en disant « Regardez, c'est la masse, c'est la meute », me paraît extraordinairement caricatural. Ce qu'il faudra faire, c'est articuler...
Et pendre sur le bec.
Articuler, non, mais je mets un petit peu de débat.
Oui, on est là pour ça. Rapidement.
Mais il faut articuler à la fois des réunions en face à face, des outils fondés sur le tirage au sort. L'immense mérite du tirage au sort, c'est qu'on a des gens de toutes les origines sociales, et y compris aussi des gens qui n'ont pas d'intérêt préconstitué. Donc voilà, grosso modo, on a une ingénierie du débat public aujourd'hui qu'il faut mobiliser.
Oui, Sylvine Thomassin, est-ce qu'on sait qui va résumer les débats et puis qui va trancher derrière? Parce que c'est bien de le lancer, mais après, comment ça se passe?
Bon. Aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait savoir ce qu'il va sortir de ce grand débat. Il faut déjà qu'il puisse se mener. En tout cas, moi, je pense que ce qui serait le pire, c'est de déboucher sur un référendum qui serait couplé au niveau calendaire au moment des élections européennes.